Aujourd'hui, je reçois Gauthier Fabreau, directeur du cinéma Plaza à Marmande. Il nous présente le programme cinématographique de ce trimestre. Ensuite, Cédric Bourniguel, président de l'Université populaire de Marmande. Il nous brosse le programme de ce trimestre. Puis Laurence Robaté, en charge du patrimoine sur Saint-Macaire, et Jean-Michel Labrousse, président des Amis de l'Orgue, nous présente l'inauguration qui va avoir lieu les 15 et 16 octobre prochains. Je suis au cinéma Plaza Marmande avec directeur Gauthier Fabreau. Il va se présenter, bonjour.
Bonjour. Alors donc moi effectivement je suis Gauthier Fabreau, donc je suis le directeur du Plaza depuis maintenant 5 mois et demi à peu près je crois. Donc j'ai un parcours un petit peu atypique je dirais, puisque moi de base je suis professeur de français. Donc après cela j'ai pris une disponibilité, j'ai repris des études en ingénierie culturelle. Voilà, j'ai été formé ensuite, j'ai travaillé au conseil départemental, j'ai travaillé pour une compagnie de danse et après je suis arrivé en plus ensuite au Plaza. Voilà, je suis aussi engagé de manière associative, notamment à Tonneins, à l'Amicale Laïque de Tonneins. Voilà, et c'est par ce biais-là notamment que j'étais proche de la Ligue, que j'ai aussi proposé ce poste-là.
Alors, si on va resituer un petit peu depuis que vous êtes arrivé, il y a eu des temps forts peut-être
Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on est en un cinéma, je dirais, assez actif. Hein. Moi, j'ai pris en fait un train un peu en marche, je dirais, puisque c'est un cinéma qui tournait plutôt bien. Donc, moi, j'ai essayé de m'inscrire dans cette continuité-là. Donc, effectivement, on a eu la chance de recevoir des réalisateurs et de faire des ciné-rencontres. Là, il y a 15 jours, on a reçu Jean-Marc Peyrefitte, donc le réalisateur du Tigre et du Président. Donc c'était quand même un beau moment d'échange avec les spectateurs.
Alors, le Tigre et le Président, important, recite un petit peu ce film.
Oui, alors tout à fait. Donc c'est un film qui raconte le duel Clémenceau-Deschanel. Hein, Deschanel qui a été président durant un court moment, hein, mais qui a marqué un peu finalement l'histoire avec la fameuse histoire donc du train, parce que Deschanel en fait est tombé d'un train alors qu'il était donc président en exercice, et pendant 3 jours, personne ne savait où il était, donc il a un peu défrayé on va dire la chronique, hein, et avec Clémenceau durant cette période-là qui a essayé de s'emparer du pouvoir. Donc c'est un duel au sommet entre Jacques Gamblin qui joue Deschanel et Dussolier qui joue Clémenceau.
Relais. Donc là, c'était un temps fort avec le réalisateur.
Oui, il y avait le réalisateur accompagné aussi de Christophe Duturon qui est réalisateur marmandais des Vieux Fourneaux qui avait participé à la mise en scène du film. Donc ça, effectivement, c'était le dernier temps fort du cinéma.
D'ailleurs. Alors, il faut dire une chose, c'est que c'est quand même le cinéma Plaza, et il y a combien de salles?
Alors, c'est un cinéma de 4 salles, donc c'est ce qui fait de nous un des plus gros cinémas indépendants du Lot-et-Garonne. Voilà, je parle en cinéma indépendant et associatif, hein. Je compte pas, bien sûr, les multiplexes qui sont forcément plus gros que nous.
Oui, mais bon, à 50 km à la ronde, on n'a pas de cinéma à 4 salles comme ça.
Non, c'est vrai qu'on est un équipement assez unique sur le territoire. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait notre force aussi, hein, de pouvoir programmer à la fois de la RSC dans la salle 4, comme une grosse super production, on va dire, dans la salle 1. Notre but, c'est de s'adresser à tous les spectateurs. Alors en tout, généralement on propose chaque semaine entre 12 et 15 films. Et sur ces films, en fait, à peu près, il y en a souvent à peu près la moitié, on essaie en tout cas, hein, qui sont des films à RSC.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous travaillez beaucoup avec des associations. Vous êtes très ancré sur le territoire avec ça.
Oui, exactement. Nous, on se veut être un cinéma de proximité, donc véritablement ouvert sur le territoire, sur le Marmandais. Pour ça, que ce soit le Festival Urbans, qui est monté par le Bureau d'Information Jeunesse. Donc on participe à ce festival-là. Mondo Clown aussi, Jazz and Garonne. C'est vrai qu'on est souvent sollicité et c'est toujours avec grand plaisir qu'on répond à toutes ces sollicitations.
Alors si on arrive, on est rentré à l'automne, on le voit d'ailleurs avec la température qui a baissé et puis petite pluie, enfin de l'eau, qui arrive en... Qu'est-ce qu'on a comme programmation au mois d'octobre ?
Alors, les temps forts, donc en mois d'octobre, qui sort bientôt, il y a le film Novembre aussi, de Cédric Jiménez, donc c'est le réalisateur de Bague Nord, qui avait très bien marché, qui revient donc cette fois avec une plongée au cœur des attentats. Et à noter aussi Black Adam, donc le dernier film de chez des studios DC, qui va arriver aussi fin octobre.
Alors, donc les attentats, ça resitue un petit peu les... Alors, il y en a eu un qui était extraordinaire, très très beau, qui était projeté lors de la présentation du programme cinéma de l'année, qui était vraiment super.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on avait projeté Revoir Paris, donc un film de Alice Winocourt, qui était absolument sublime et qui parlait véritablement de la reconstruction post-attentat. Voilà, parce qu'il il faut bien continuer de vivre, et c'était véritablement sur cette thématique là. Là, voilà, novembre, on va véritablement être au cœur de la traque en fait des terroristes, on va véritablement être là au cœur de l'attentat. Donc deux points de vue différents, mais une même thématique effectivement.
Alors c'est intéressant de remarquer, c'est que ceux qui ne l'ont pas vécu, ils sont carrément déphasés par rapport à tout ça.
Oui, tout à fait. Et le film le montre parfaitement bien. C'est-à-dire que Virginie Fira se rapproche du personnage donc joué par Benoît Magimel, parce qu'ils ont l'impression de parler la même langue. Ils le disent, quoi. On parle la même langue parce que, voilà, c'est vrai qu'il y a une. Ils se retrouvent, ils se comprennent. Parce que voilà, vivre un événement comme ça, bien sûr, c'est absolument terrible, et c'est compliqué de reprendre la même vie qu'avant, voire impossible, et c'est ce que nous dit le film.
Alors là, c'est le mois d'octobre. Au mois de novembre, on aura des temps forts.
Oui, alors le mois de novembre s'annonce aussi complet, hein, puisque déjà on va mettre en place donc pour la première année un festival qui s'appelle Le cinéma et la littérature du réel, qui traitera cette année du travail. Donc le sous-titre du festival cette année, c'est Regard sur le travail. Donc l'idée, c'est donc de traiter cette question-là de l'adaptation donc l'adaptation d'une œuvre littéraire ou d'une œuvre écrite au cinéma.
C'est pas évident.
Donc non, tout à fait, c'est pas évident, mais voilà, c'est vrai qu'on a fait donc une programmation éclectique à ce sujet-là, pour avec à la fois voilà des films populaires et des films aussi un petit peu plus exigeants, du patrimoine aussi. Donc voilà, l'idée, c'est de véritablement traiter de cette question-là, de l'adaptation littéraire. Donc voilà, on a préparé tout un programme. Donc le festival se diffusera au Plaza, à Marmande. Il y aura des choses aussi qui se feront à la médiathèque de Marmande, à la médiathèque aussi de Miramont et au cinéma de Miramont, puisque Miramont, je rappelle que c'est notre circuit itinérant. C'est nous qui nous occupons aussi du cinéma de Miramont. Donc ce sera du 4 au 9 novembre. Voilà, les scolaires aussi, bien sûr, seront. Il y aura aussi des temps dédiés aux scolaires. Et voilà, donc avec une programmation avec à la fois des avant-premières, hein. On aura l'avant-première de Il nous reste la colère, donc un documentaire sur la fermeture de l'usine de Blanquefort. Donc là, l'idée, c'est de traiter l'usine Ford, tout à fait, à Blanquefort. Donc là, l'idée, en fait, c'est de traiter de mettre ça en parallèle avec des écrits journalistiques, parce qu'il y a toujours la question de l'adaptation qui nous guide.
Alors donc un festival ou en couleur entre finalement l'écriture et l'image.
Exactement, tout à fait, entre l'écriture et l'image, les différents enjeux liés au passage d'un média à l'autre média. Voilà, quelles sont les différentes questions par rapport, comment aussi on adapte, comment on écrit un scénario d'après une œuvre littéraire aussi. Et aussi on s'est intéressé à comment d'après un essai. On peut en faire un long métrage de fiction, comment on peut passer de l'un à l'autre aussi, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de l'essai. Et il y a aussi beaucoup d'essais qui sont adaptés. Je pense on va le diffuser aussi celui-là au quai de Ouistreham, de Florence Obna. Donc il y a le film Ouistreham aussi qui a été réalisé. Et là, voilà, de base, c'est un essai d'Obna qui est adapté en œuvre de fiction. Donc voilà, c'est différentes questions qu'on va explorer à travers le festival.
Et je crois qu'elle n'a pas trop apprécié le film par rapport à ce qu'elle a écrit.
Effectivement, donc c'est pour ça que ce film nous intéressait d'autant plus, puisque alors c'est un très bon film et c'est un très bon livre.
Ah oui.
Mais effectivement, Obona n'a pas forcément été est en accord avec les partis pris du réalisateur Emmanuel Carrère. Donc Emmanuel Carrère en plus est aussi auteur. Donc l'idée ce serait d'aborder cette question là autour du film, voilà, de voir en fait ce qui n'a pas plu à l'auteur, et voilà, d'en discuter avec les spectateurs.
Alors je crois que Florence Obona est en ce moment en mission en Ukraine, donc elle ne pourra pas venir, mais il y aura quelqu'un qui sera là pour expliquer.
Oui, tout à fait. Alors là, on est encore en train de voir. Hein, c'est encore. La programmation est quand même bouclée. Mais voilà, sur ce sujet-là, on n'a pas encore tout à fait fixé le spécialiste qui sera là. Donc voilà, je ne peux pas encore vous dire, mais c'est en cours en tout cas.
Tout à fait. L'interprétation, finalement. Alors ça, c'est. On est en novembre. Est-ce qu'il y a d'autres choses ?
Alors en novembre, on va participer bien sûr au mois du doc. Pour ça, donc, on aura deux documentaires qui seront accompagnés. Un documentaire qui va s'appeler L'appel des libellules. Un documentaire donc sur les libellules en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels d'Aquitaine, avec l'antenne du Lot-et-Garonne. Mmh. Parce que nous, donc, on est engagé donc dans une démarche de cinéma vert aussi. Donc, on avait à cœur de parler aussi développement durable, de parler biodiversité. Donc voilà, il y aura ensuite un échange entre un agriculteur qui justement s'est engagé dans une démarche éco-responsable, avec donc un échange entre lui et avec donc un Quentin Scolar qui travaille donc qui est écologue pour le au Conservatoire d'espaces naturels.
Ce qui est remarquable, c'est que comme ça on croit qu'il y a une libellule, mais il y a peut-être une trentaine d'espèces différentes, et ça c'est.
Exactement, et c'est ce que montre le film aussi, avec voilà cette nécessité finalement de les protéger.
Laisser aller pour nous ça.
Oui, c'est ça. Donc c'est complètement lié. Donc d'avoir ensuite un échange sur cette thématique-là avec nos spectateurs.
Donc. Alors on va arriver au mois de décembre. Alors là, décembre, c'est chargé là.
Décembre, oui, pour nous, c'est un mois assez important. Même si on n'aura pas le fameux Disney de Noël cette année. Pour la première fois, Disney a annoncé qu'ils ne sortiraient pas en salle leur film de Noël. Tout ça, c'est bien sûr assez préjudiciable pour les salles. Mais il y a évidemment une immense attente avec la sortie du deuxième volet d'Avatar en décembre, qui est très très attendu. Et voilà, qui suscite aussi beaucoup d'espoir pour les salles. Territoire.
Très bien, merci.
Merci à vous.
Yeah.
Nous avons entendu Clara Luciani, Respire encore. Maintenant, c'est Sadi Bourniguel, président de l'Université populaire de Marmande, qui nous brosse le programme de ce trimestre. Alors, je suis avec Cédric Bourniguel, qui est président de l'UPOP. Alors, l'UPOP, c'est quoi, juste ?
Alors, l'UPOP, c'est l'Université populaire de Marmande, qui a été créée en 2012. Donc, on a fêté les 10 ans de l'UPOP au mois de mai dernier. Et l'objectif, c'est de proposer au territoire, à tous les habitants, une université populaire. C'est permettre à tous ce qui compose le territoire, les habitants, mais aussi des personnes qui n'ont pas forcément été à l'université. Il n'y a pas d'élitisme. Et l'idée, c'est de proposer des conférences de octobre au mois d'avril, avec des thématiques très variées et des intervenants conférenciers qui viennent de toute la France, gracieusement. Ils sont pas rémunérés. On prend en charge leur déplacement, on les indemnise au niveau restauration, mais il n'y a pas de prise en charge financière de leur intervention. Et c'est surtout thématique, ça peut être sur l'économie, le social, le sport, l'environnement, l'urgence climatique. Voilà, donc c'est ouvert à tous.
Je crois que, au niveau de l'UPOP, vous avez plusieurs partenaires.
Oui, l'UPOP a été fondée à l'origine, c'est la mairie de Marmande qui a été à l'origine de la création de l'université populaire, avec cinq autres structures fondatrices, donc la mission locale Moyenne-Garonne, la Ligue de l'enseignement du Lot-et-Garonne, l'APACAM, qui est l'association rattachée au cinéma Le Plaza, la Maison de l'Europe et l'ADES.
Alors, je crois que sur 10 ans, vous avez eu quand même pas mal de conférences.
Oui, 10 ans du POP, c'est 130 conférences, 10 programmes. Donc, chaque année, c'est entre 12 et 15 conférences qu'on organise. C'est 115 conférenciers différents. Par an, c'est 250 auditeurs qui passent, plus des étudiants et des jeunes de mission locale, les étudiants de l'ADES, des futurs travailleurs sociaux et des jeunes suivis par la mission locale. Et puis, sur 10 ans, c'est près de 2000 personnes qui sont passées sur les bancs de l'université populaire, dans un lieu qui est emblématique de Marmande, qui est la cité de la formation, et un amphithéâtre. C'est important qu'on soit comme dans une université, assis dans un amphi. Donc, c'est ce qui est la signature un peu aussi de cette université populaire. On le fait dans un lieu qui est vraiment adapté, approprié à recevoir le savoir.
Donc, c'est dans un amphithéâtre avec une conférence qui est calibrée. Ça commence à quelle heure, ça se finit à quelle heure?
Alors, les conférences sont le mercredi, 18h30, 20h, 20h30 maxi. Donc, c'est un format d'une heure 32 heures. La conférence dure une heure 15 grand maximum. Et après, c'est du temps d'échange et de débat.
Alors, on va démarrer cette année, puisqu'on est à la 11e année, de l'UPOP. Ça commence prochainement, je crois.
Voilà, on ouvre le 12 octobre avec une conférence sur Adam Smith, le Grand Tour, la vraie conférence. Donc, le 12 octobre, c'est l'inauguration de l'UPOP saison 2022-2023. Et là, c'est la première fois, c'est une conférence spectacle avec Vanessa Michel, qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux en économie et autrice de théâtre, qui interviendra avec la compagnie Just Art. Il y a un autre comédien, Jérôme Batteux. Donc c'est une conférence spectacle autour d'Adam Smith, qui est le père fondateur du capitalisme, c'est ce que tout le monde croit, mais justement la vraie conférence va nous apprendre qu'Adam Smith avait été aussi un des précurseurs sur les dangers du capitalisme.
Donc Adam Smith, 1723-1790, donc ça remonte quand même pas mal d'années, mais finalement c'est vrai que c'est un peu le père du capitalisme, et que finalement à travers cette conférence, le Grand Tour, la vraie conférence, on va voir que Adam Smith avait d'autres éléments par rapport à ces aspects-là. On poursuit cette fois, je crois que c'est le 19 octobre, nature et utilité de la science.
Oui, nature et utilité de la science. Là, c'est Jean-François Trinque-Coste, qui est professeur d'université et directeur aussi d'un institut de recherche en gestion des organisations, qui viendra nous parler en écho à son dernier ouvrage qui s'appelle Epistemodico, portrait de science en mosaïque, qui viendra intervenir sur la nature et l'utilité de la science, dont Jean-François Trinquecos, ce 19 octobre. Thématique aussi qu'on a peu abordée dans les 10 ans de l'UPOP.
Tout à fait. Alors on poursuit cette fois le 9 novembre. Ah, là, on est quand même sur un sujet d'actualité, climat passé, présent et futur, de l'extinction à l'adaptation.
Là, oui, c'est un géologue, géologue Hugo Hardy qui interviendra. Donc, Hugo Hardy, autour de l'urgence climatique, c'est vrai qu'on est dans des périodes qu'on a vécues de sécheresse, d'incendie. Bon, on est en train de se préparer à un monde aussi canicule. Voilà, donc c'est
tornade.
On est dans quelque chose qui est important parce qu'on est face à l'urgence climatique, mais on est aussi face à des événements à l'horizon 2050. C'est ce qu'on va voir avec Hugo Hardy, dans quel monde on sera par rapport à ces questions-là. Donc on est aussi dans une prospective intéressante qu'il va nous proposer.
Alors, pour la COP21, on imaginait en 2050 des températures qui allaient arriver d'ici 30 ans. Finalement, on s'aperçoit qu'on y est déjà dedans.
Oui. Nous, c'est un sujet, chaque année, on essaie de mettre au niveau du POP une conférence. Là, cette année, c'est sur le climat, mais on a abordé l'eau, on a abordé les questions de canicule déjà, de sécheresse, l'impact aussi que ça peut avoir sur le vin, par exemple. Donc, il y a chaque année une conférence en termes d'écologie, environnement, qu'on essaye de mener dans notre programme UPOP. L'UPOP, c'est vraiment collé aussi aux enjeux actuels, mais aussi avoir un regard sur ce qui s'est passé avant, dans les 30-40 dernières années, voire plusieurs siècles avant, pour bien appréhender le futur. Et c'est là où la force un peu d'une université populaire, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses à la télé, d'un clic on peut avoir une multitude d'informations. L'UPOP, c'est l'antithèse du portable ou de la tablette, quoi, hein, ou du net. C'est s'opposer face à un intervenant qui vient partager son savoir, le mettre aussi en débat, en échange, et se faire une opinion différente de celle qu'on peut entendre parfois à la télé.
Ça permet finalement de prendre du recul sur beaucoup de choses.
Oui, c'est pour ça que vraiment, moi j'incite les gens, ceux qui sont jamais venus, l'adhésion est à 10 euros par an pour une quinzaine de conférences, mais quelqu'un qui voudrait tester, venir une fois, l'accès à une conférence est gratuite, hein, quelqu'un peut venir une fois, voilà, et découvrir ce qu'est l'université populaire. Et il y a des gens qui se disent, ah ben moi, aller dans une université populaire, c'est pas pour moi, j'ai jamais été à l'école, ça m'intéresse pas trop, et quand ils viennent, en fait, ils se rendent compte que c'est des sujets d'actualité qui les touchent de plein fouet. Et aussi, c'est fait avec des personnes qui, parce qu'elles viennent aussi gratuitement, hein, qui ont certaines une légitimité, mais toutes ont cette capacité quand même à être de bons orateurs face à un public, parce que quand vous avez 200 personnes en face, au-delà de la thématique, il faut aussi faire passer des messages, il faut être en capacité de présenter les choses de manière accessible aussi à notre public. Et ça, c'est le défi que se lance à chaque conférencier. Et le fait que depuis, ça dure, on attaque la 11e saison, ça fait plus d'une décennie qu'on a commencé. On pourrait dire à Marmande, de ce type d'activité, de proposition, est-ce que ça fonctionne ou pas? Et on a 120, 130, 140 personnes en moyenne par conférence. Donc ça montre qu'il y a un intérêt et que sur nos territoires aussi, l'offre culturelle n'est pas forcément la même que sur Bordeaux ou sur Toulouse, et qu'on a un espace aussi de proposer ce type de lieu qui est ouvert à tous et qui est très accessible finalement.
On va poursuivre avec le 16 novembre, prison, histoire et secret, avec Jean-François Alonso.
Alors c'est une nouveauté aussi, c'est-à-dire cette année on a tissé un partenariat à travers cette conférence avec l'ENAP qui est sur Agen, l'École Nationale de l'Administration Pénitentiaire, et Jean-François Alonso, c'est un spécialiste de l'histoire des prisons en France, il a écrit beaucoup d'ouvrages là-dessus, et là, à travers son intervention prison, histoire et secret, c'est nous délivrer un peu, déjà à travers l'histoire des prisons de la Révolution à aujourd'hui, comment les infrastructures, la typologie aussi des prisonniers a évolué, et aussi comment les les personnes qui accompagnent les gens qui vivent leur profession, leur métier dans une prison, aussi se sont adaptés aux détenus qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc c'est une conférence où on va entrer dans un monde qu'on connaît peu.
Oui, relativement fermé, milieu carcéral, et on a du mal à cerner les choses. Donc c'est une chance d'avoir l'ENAP à Agen à côté.
Tout à fait. Nous, on s'appuie beaucoup sur le territoire. Là, on parle de l'ENAP, mais on a la chance d'avoir juste à côté de Marmande un festival international du journalisme avec un partenariat avec le journal Le Monde et Gilles Van Cotte. Voilà, et on a des partenariats directement avec lui aussi pour faire venir parfois des personnes qui nous est difficile de toucher et qui sont dans ce réseau-là aussi. Donc, c'est pour ça qu'on joue avec le réseau de tout le monde, mais aussi avec le réseau du territoire pour faire venir des gens qui peut-être ne seraient pas venus sur une conférence de ce type-là si on n'avait pas ce réseau-là.
Alors on poursuit maintenant, on est le 23 novembre, ce que la pauvreté fait à l'école, ce que l'école fait de la pauvreté.
Alors c'est Jean-Paul Delahaye qui va intervenir. Jean-Paul Delahaye, ça a été pendant de nombreuses années le numéro 2 de l'éducation nationale. Et là il se met un peu à nu dans cette conférence parce que sa conférence tournera pas que, mais autour aussi d'un ouvrage qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui s'appelle « Exception consolante ». Exception consolante, c'était dans les années 50-60, des personnes qui n'avaient aucune chance d'arriver à faire des études et qui, grâce à leur investissement, à leur rigueur, au soutien des parents aussi, sont arrivées à faire de hautes études. Et Jean-Paul Delahaye fait partie, il le dit lui-même, de familles très très pauvres. Et donc, il a monté tous les échelons de l'éducation nationale pour en devenir numéro 2 auprès du ministre. Et ce qui peut paraître comme une anomalie, eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi son chemin. Et donc, ça renvoie aussi cette conférence au modèle de l'éducation en France. Et derrière ce modèle, est-ce que ce modèle est fait pour tous ou est-ce qu'il est élitiste? Et ça, c'est une véritable question. Et Jean-Paul Delahaye vous donnera sa réponse.
Tout à fait. Alors, on poursuit maintenant le mois de décembre. Le 7 décembre, les secrets du temps dans littérature et autres arts.
Voilà. Alors là, c'est un pari parce que Nelly Barigon, donc, c'est une spécialiste. Alors, elle a été directrice artistique sur des chaînes de télévision. Elle a fait une partie de sa carrière dans l'audiovisuel. Elle est formatrice aussi en atelier d'écriture. Elle est illustratrice, graphiste. Donc, elle a plusieurs carrières, cette dame. Et elle les touche à tout. Et en même temps, elle vient aborder un sujet qu'on n'a pas trop abordé à l'UPOP depuis sa création, c'est la littérature. Et là, c'est les secrets du temps dans la littérature. Voilà, donc, et dans les autres arts, hein, pas uniquement dans la littérature. Donc, on espère que ça sera un moment suspendu et que les auditeurs de l'UPOP adhéreront aussi à ce type d'intervention parce que c'est une intervention, je dirais, atypique dans le cadre du programme de l'UPOP.
Donc on va rappeler, donc il y a plusieurs séances au cours de ce trimestre. Donc il y a six thèmes au cours de ce trimestre. Et c'est donc le mercredi, à quelle heure?
C'est le mercredi sur ce trimestre de 18h30 à 20h15.
Et donc c'est à l'amphithéâtre de la Cité de formation professionnelle de Marmande.
Tout à fait, on vous attend nombreux. Venez l'essayer pour peut-être après ensuite l'adopter et être adhérent de notre association. Et tous les auditeurs, il y en a 250, 300 auditeurs aujourd'hui, tous les auditeurs donc ont possibilité aussi d'intégrer notre conseil d'administration pour piloter l'association, puisqu'aujourd'hui l'idée c'est que cette association est pilotée par des hommes et des femmes qui sont la plupart des auditeurs.
Très bien, merci Cédric Bourniguel.
Merci à vous, monsieur.
Chaque jour, il faut s'y faire. Elle revient toujours, la colère. Chaque jour, elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de l'intérieur. Chaque jour, sur un bout de terre. Elle revient toujours la colère. Chaque jour elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour depuis des millénaires. Elle revient toujours. Depuis des millénaires, elle revient toujours la colère. Chaque jour sur un bras de mer, elle revient toujours la colère. Chaque nuit comme en plein cœur. Qu'elle vient de la douleur. Chaque jour, même les plus ordinaires, elle revient toujours la colère. Chaque jour, elle nous effleure. Je crois qu'elle prend de la hauteur. Depuis des millénaires, elle revient toujours la colère. Chaque jour depuis des millénaires, elle revient toujours la colère. À croire qu'elles sont plusieurs. Elle revient toujours la colère. Chaque jour elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de la douleur. Chaque jour depuis des millénaires.
Gaëtan Roussel, La Colère, qui est passé dernièrement au Festival de Luxeuil. Maintenant, c'est Laurent Sorbaté, en charge du patrimoine de Saint-Macaire, et Jean-Michel Labrousse, président des Amis de l'Or, qui nous présente l'inauguration qui va avoir lieu à Saint-Macaire les 15 et 16 octobre prochains. Je suis avec Laurent Sorbé, responsable du patrimoine sur Saint-Macaire. Bonjour.
Bonjour.
Alors, très prochainement, il va y avoir une manifestation qui est, alors on va pas faire un jeu de mots, mais un point d'orgue d'une orgue qui, depuis le 19e siècle, est dans une église à Saint-Macaire. Très prochainement, finalement, l'inaugurer, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. On prévoit ça pour le week-end du 15 et 16 octobre.
Très bien, alors 15 octobre. Donc c'est une orgue qui a eu quand même beaucoup, c'était un montage financier, et puis bon, il y avait pas mal de détérioration, donc il a fallu faire pas mal de travaux en tant que des facteurs d'orgue, quoi.
Voilà, complètement, c'est-à-dire que c'est une orgue effectivement qui avait été conçue à la base par un facteur d'orgue belge. Il s'est avéré que dans le temps, il y a eu une certaine détérioration qui a fait qu'il n'a pas été possible d'entrevoir une nouvelle restauration, après quelques-unes qui avaient été pratiquées d'ici là, et donc il était la seule possibilité, c'était d'entrevoir une véritable reconstruction de cette orgue. On a quand même, bien sûr, mais au-delà de l'orgue, on a quand même également aussi une culture musicale ancrée sur Saint-Macaire, avec notamment la prestigieuse école Ardila. Donc c'est vrai que, je dirais, pour la partie orgue, on avait effectivement de nombreuses heures. Ce qui était la problématique, c'était l'instrument, qui effectivement n'était plus accessible. Et donc, c'est avéré effectivement une décision dans les années 2000, donc plus précisément 2004, avec la création d'une association qui a voulu essayer de porter ce projet de reconstruction adossé à la municipalité, et donc enclencher ce long processus qui nécessitait effectivement de l'énergie, du temps, de l'argent bien entendu, pour arriver et à reconstruire une orgue qui fait à peu près le triple en termes de taille de celle d'origine, qui a une technologie tout à fait différente et très, très novatrice, ce qui fait que ça sera, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui en Gironde sur ce type de matériel. Et donc, comme je le disais, un accompagnement bien sûr financier de plusieurs institutionnels pour mener à bien ce projet ambitieux.
Donc samedi 15 octobre, il va y avoir d'abord une présentation de l'historique de la reconstruction de l'orgue au départ, samedi 15 à 15h30.
Voilà, c'est ça. En fait, on éclate sur deux demi-journées, tout simplement parce que, effectivement, je vais venir de suite sur la partie technique, mais il s'agit d'avoir, avant d'envisager le fait de pouvoir jouer de cet orgue, avoir une bénédiction, c'est le processus officiel. Donc du coup, j'en reviens à ce samedi 15 octobre, nous attaquons l'après-midi dès 15h30 avec l'histoire de la reconstruction de l'orgue. Là, ça va être illustré sur un écran au niveau de l'église avec un reportage photographique qui a été conçu par les facteurs d'orgue eux-mêmes, qui permet de situer un petit peu tout le processus et le visualiser de ce long chantier avec leurs commentaires techniques, je dirais, en direct. Et qui est aussi, d'ailleurs important de le préciser, en termes d'inauguration d'orgue, une première aussi sur ce type de présentation technique qui n'avait jamais encore été fait.
Très bien. Et après, il y aura une bénédiction du père Jean Morel.
Voilà. Alors, intercalé à 17h simplement, sera fait une présentation plus précise de l'orgue actuel, donc après tous ces travaux, dans lequel nous retrouverons Bernard Cogès, donc qui est le facteur d'orgue, qui a finalisé ce superbe instrument, et sera accompagné dans les commentaires de Philippe Lefebvre, organiste à Notre-Dame de Paris et président d'orgue en France. Ils seront à deux voix, en fait, donc pour faire cette présentation-là, qui nous amènera tout doucement vers le 18h, le moment de la bénédiction, donc comme vous l'évoquiez, par le père Jean Morel, qui sera donc bien sûr un moment important pour valider, je dirais, la logique de cet orgue. Et ce moment sera dans la continuité suivi d'une petite audition qui permettra d'ores et déjà de l'entendre sur un duo l'un après l'autre, mais nous retrouverons Philippe Lefebvre, donc qui en jouera un petit peu et qui cédera aussi la place à Mathieu de Miguel, qui est un deuxième organiste de Toulouse, qui sera amené, voilà, je dirais, à faire une petite audition qui durera à peu près une demi-heure, 40 minutes environ.
Tout à fait. Et alors, le lendemain, c'est là qu'on arrive au concert inaugural avec Philippe Lefebvre.
Voilà, c'est ça. Donc le lendemain, dimanche 16 octobre, nous retrouvons donc même lieu, même combat sur l'église de Saint-Sauveur avec à 16h donc préalablement une présentation, je dirais, au public par aussi les institutionnels, bien entendu les acteurs principaux, la municipalité et les différentes municipalités qui se sont succédées dans ce projet, puisque comme je l'évoquais, c'est un projet qui a englobé plusieurs décennies. Donc après, je dirais, toute cette présentation de ces différents acteurs, nous serons sur le grand moment, je dirais, d'écoute, où donc Philippe Lefebvre, comme je le précisais, organiste de Notre-Dame de Paris, sera au clavier, enfin je dirais même plus aux trois claviers, puisqu'il y en a trois, qui permettent, je dirais, on va dire une possibilité de 48 sons différents, et qui nous produira donc un concert qui aura une durée d'environ une heure et quart, une heure et demie.
Et alors, je crois que là derrière, puisque vous avez une école de musique, c'est que par la suite cet orgue soit également un élément clé pour réaliser la formation de jeunes qui veulent jouer de l'orgue.
Musicalement parlant, donc nous envisageons bien évidemment d'ores et déjà de déployer, alors le projet serait une classe d'orgue, voilà, je dirais.
C'est ça, oui, une classe d'orgue.
Voilà. Et, très étroitement associé à ce projet. Voilà, donc c'est vrai. Et bien entendu, nous serons amenés à envisager des productions de concerts diverses et variées, car nous avons la chance d'avoir un territoire sud-girondin avec d'autres communes aussi ayant la chance d'avoir des instruments de cet ordre-là. Donc c'est vrai qu'on peut envisager de très belles productions.
Oui, avec l'aréole, entre autres.
Voilà, notamment, puisque justement, l'aréole, le week-end suivant produira aussi également un concert au niveau de leur église. Donc c'est vrai qu'on peut envisager, notamment dans cette aussi conjoncture de travail de futur pays d'art et d'histoire dans lequel Saint-Macaire est plus que partie prenante en tant que ville pilote, de pouvoir envisager de belles collaborations, ou pourquoi pas effectivement des circuits de l'orgue, comme nous avons eu il y a quelque temps de ça, des itinérances concernant les parties médiévales, etc.
Très bien, oui, tout à fait. Donc, on est qu'au début de nouvelle ère.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Très bien. Merci, Laurent Chambin.
Merci beaucoup.
Alors, je suis avec Jean-Michel Labrousse, qui est président des Amis de l'Orgue de Saint-Macaire. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cette orgue, c'est quoi, au juste? Il y a longtemps qu'elle existe?
Alors, cet orgue, c'est toute une histoire. Il a existé depuis la fin du 19e siècle, où c'est la paroisse qui avait acheté cet orgue à un facteur d'orgue qui s'appelle Anne-Sainz. Voilà, alors il a fonctionné pendant des années. Dans les années 70, entre 1950 et 1970, il a eu deux restaurations. Oui. Et qui malheureusement n'ont pas eu l'effet escompté, puisqu'à partir du XXe siècle, il était devenu totalement muet. Voilà. Et donc en 2004, en parlant avec le maire de l'époque, qui est Jean-Marie Bida, nous avons décidé de monter une association, les Amis de l'Orgue de Saint-Macaire, et dans le but de restaurer cet orgue. Pour ça, on a eu beaucoup d'aide, et en particulier de Philippe Lefebvre, qui est l'organiste de Notre-Dame de Paris, qui, pour des raisons d'amitié, parce qu'il était très ami avec l'ancien organiste de Sainte-Croix de Bordeaux, qui s'appelait Michel Réverdi,
oui,
et qui a été le professeur des organistes du coin, c'est Michel Dieu, Maurice Rouleux et moi, dans le coin de Langon-Saint-Macaire et Brignac. Et donc Michel Réverdi est décédé depuis des années, mais par amitié et par finalité, Philippe Lefebvre a soutenu notre projet. Oui. Donc il est venu, il a fait un état des lieux, ça nous a permis d'établir un cahier des charges. Ensuite, la municipalité a lancé un appel d'offres, et c'est un facteur d'orgue de Roubaix qui s'appelle Bernard Cogé qui a répondu et qui a été choisi. Voilà. Et vu l'état de l'instrument, plus qu'une restauration, on est parti vers une reconstruction. Et donc de l'orgue qui fait qu'il y avait deux claviers et 22 jeux, on est passé à un orgue qui a maintenant 3 claviers et 46 jeux, 46 registres. Donc c'est quelque chose d'assez énorme, avec une centrale informatique sur Creuse, je crois que c'est assez unique dans notre coin de la Gironde, qui permet de faire des tas de choses. Alors on a un combinateur, c'est-à-dire qu'on peut pré-enregistrer la registration qu'on veut dans un morceau, donc on peut changer autant de fois qu'on veut.
Oui.
Et avec les technologies utilisées, l'ensemble des jeux, on peut faire tous les styles de musique, depuis la musique ancienne, baroque, jusqu'à la musique symphonique, voire contemporaine. Voilà.
D'accord. Et alors, donc cet orgue a été restauré, et pour ça, vous allez célébrer finalement l'inauguration de cet orgue.
Voilà, parce que c'est un projet qui a eu le temps de mûrir. On a monté l'association en 2004. Le temps de choisir, de faire le cahier des charges, de choix du facteur d'orgue, les financements, parce qu'il a fallu, la mairie a demandé des subventions, quoi. À l'époque, c'était le conseil général.
Oui.
Donc tout ça, on a avancé dans le temps, et on arrive enfin au terme aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps? En 2012, l'orgue a été démonté totalement. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait d'énormes travaux à faire à la tribune, mais également la rosace qui était derrière et qu'on ne voyait pas parce qu'elle était masquée par l'orgue, était en très mauvais état. La voûte devait être nettoyée. Là, on s'est aperçu aussi qu'il y avait des problèmes d'étanchéité sur la façade, des problèmes à la couverture. Oui. Donc ça a engendré des travaux assez conséquents. La municipalité, c'est très bon. Ça a duré, bien sûr, là aussi, le temps de monter le dossier, d'obtenir les financements, de réaliser les travaux. On a pris trois ou quatre ans dans la vie. Voilà.
Ouais.
Et enfin, après, les travaux ont pu reprendre. Le facteur d'or est arrivé, il a remonté, parce qu'en attendant, il y avait un atelier, il avait tout préparé, tous les éléments. Imaginez une espèce de mécano, donc tout était prêt à l'atelier, et après, il suffisait de monter sur place. Et quand je dis qu'il suffisait, c'est quand même un énorme travail. Puisqu'on a, dans cet orgue-là, on a, je crois, de mémoire, 2508 tuyaux. Et chaque tuyau, pour être arrondi, c'est-à-dire pour qu'il sonne exactement comme le facteur d'orgue le veut, et qu'il sonne juste en plus, ça nécessite pour chaque tuyau entre 7 et 10 manipulations. Voilà.
D'accord. Donc l'orgue de Saint-Macaire à l'église Saint-Sauveur, c'est ça?
À l'église Saint-Sauveur de Saint-Macaire.
De Saint-Macaire.
Et donc ça va être, je pense, un des plus beaux orgues de Sud-Giron. Et le seul qui a du fait des technologies employées, utilisées, qui a une possibilité infinie au niveau de l'enregistration, des sonorités, de l'interprétation, voilà. Ça va être quelque chose d'extraordinaire.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci Jean-Michel Arbrousse de nous avoir éclairé sur finalement cet orgue après longues années périlleuses pour arriver à retrouver finalement l'orgue d'antan, quoi.
Absolument, et je tiens à saluer aussi le travail remarquable du facteur d'orgue.
Oui, tout à fait.
Il a réalisé quelque chose d'absolument merveilleux.
Très bien.
Une sonorité servie par une acoustique extraordinaire et exceptionnelle. Voilà, le résultat, ça vaut vraiment la peine de venir écouter.
Très bien, merci.
Merci
Monsieur Labrousse. Merci.
Merci, je vous en prie.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y'a pas que les gènes qui font les familles, les humains qui s'aiment suffisent.
Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main. Je t'attendais pas, je te laisserai pas, même sans le même sang, on s'aimera.
Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage, et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi, j'avoue, qui me suis invité.
dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé.
Et si la verse me touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois.
Et si l'inverse me touche toi et moi, prends la main de beau papa.
Je t'attendais pas. On s'aimera.
On s'aimera.
J'avais pas prévu d'un jour adopter.
En vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y'a pas que les gènes qui font les familles.
Du moment qu'on s'aime.
Et si la verse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si la verse nous touche toi et moi, prends ma main, tu prends-la.
Je t'attendais pas, je laisse.
Voilà, c'était Les Enfoirés, Beau Papa, une chanson de Vianney. Donc l'émission s'achève. Nous avons entendu Fabien Gauthier, directeur du Cinéma Plaza Marmande, qui a présenté le programme cinématographique de ce trimestre. Également Cédric Bourniguel, qui est président de l'Université Populaire de Marmande. Il a brossé le programme du trimestre. Enfin, Laurent Sorbaté, en charge du patrimoine de Saint-Macaire, et Jean-Michel Labrousse, président des Amis de l'Orgue, ont présenté l'inauguration qui aura lieu très prochainement, en effet le 15 et 16 octobre prochain. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.
Entre Garonne et Dordogne, REM 98.4 FM.
Vous écoutez REM en FM sur le 98.4.
Radio Entre-deux-Mers à Blasimont sur le 98.4 FM. REM, l'Entre-deux-Mers à sa radio. Vous écoutez REM en FM à Cadillac sur le 98.4. REM, la radio de toutes les générations.
Sous laisser passer l'orage. Comment me raisonner? Ça devrait passer avec l'âge, les années. Je prends de l'expérience sans voir son incidence. Mais moi le cap, je suis cap de le tenir, de le garder. Moi le cap, je suis cap de le chérir, de l'embrasser. Alors montre-moi la voie, montre-moi les sentiers que je dois battre pour ça. Car moi j'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai comme tous mes détails qui en font des tonnes. J'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai comme tous mes détails qui en font des tonnes. J'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai comme comment équilibrer l'excès, en éviter les effets déréglés depuis trop longtemps. Je ne sais pas quel syndrome maquille mes hématomes. Pourtant ça frappe pour obéir à mes pensées. La soupape, soupape semble laisser l'air s'échapper. Alors montre-moi la voie, montre-moi les sentiers que je dois battre pour ça. Car moi j'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent. J'ai comme tous mes détails qui en font des tonnes. J'ai comme des heures qui tapent, des heures qui cognent.
Comme des heures.